Ariane Bois nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Ariane.
Bonsoir Bernard.
Ariane, vous êtes journaliste, auteur, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont le dernier s'appelle « Après elle ». Et vous avez eu la gentillesse de venir nous voir à Radio Shalom quasiment en tout premier parce que c'est un livre qui est sorti il y a 3 jours.
Exactement, il vient de sortir et donc j'aime la radio, j'aime Radio Shalom et j'aime venir en parler avec vous.
Alors, il y a le sujet central qui est le féminicide et avec un regard des enfants.
Exactement. Je dirais même que le sujet central n'est pas le féminicide parce que ce n'est pas le crime. Le crime a eu lieu dans une famille ordinaire où il n'y a pas eu de violence au préalable, ni même de cri. Et moi, je m'intéresse à ce qui reste, c'est-à-dire aux enfants de deux petites filles, une fillette et une adolescente, et puis à toute la famille, à tout l'entourage. Comment survit-on à un crime pareil? Comment se reconstruit-on? Comment arrive-t-on à aimer, à avoir confiance de nouveau en la vie? C'était des thèmes qui m'intéressaient.
Je vais quand même vous poser une question sur le féminicide parce
Bien
que
sûr.
Je me pose une question. On a toujours su qu'il y avait des maris qui pouvaient tuer leurs femmes et d'ailleurs même inversement, mais on a l'impression qu'on découvre aujourd'hui, non pas que donc ça existe, mais que c'est quelque chose de particulier, de spécifique.
Oui, je crois que
Pourquoi ?
Jusqu'en 2003, on avait l'impression que c'était des accidents de la vie courante, que c'était un fait divers, on parlait de crimes passionnels, on parlait d'histoires familiales qui tournaient mal, de disputes conjugales. Et puis le retournement, la véritable différence, c'est la mort de Marie Trintignant en 2003. En 2003, on s'aperçoit qu'une jeune femme qui vient d'un milieu favorisé, où on se parle beaucoup, où voilà, la culture est très présente, eh bien, elle
aimée de son mari.
Aimée de son mari, tombe sous les coups. Aimée, il faudrait revenir sur la définition, parce que pour moi, quand on tue une femme, on ne l'aime pas, mais c'est plutôt un meurtre d'amour propre. On y reviendra. Et donc, ça, c'est le renversement. Tout d'un coup, on se rend compte que ça peut être dans n'importe quel milieu, des gens fortunés, d'autres moins, pas des familles monoparentales, pas des familles étrangères. Et donc, là, les associations commencent à dire qu'il faudrait agir. Donc, on a commencé à comprendre, à essayer de comprendre pourquoi les hommes agissaient comme ça. Est-ce que c'était coup de folie des hommes, bien sûr. Heureusement que ce n'est pas la majorité. Je rappelle quand même qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups en France. Donc, il y a pas mal de meurtriers. Voilà. Mais pourquoi ils agissaient comme ça? Quel était leur profil psychologique? Et puis après, à l'arrivée des années 2000, on s'est intéressé aux femmes. C'était plus un fait divers, on a eu des prénoms, on a eu des noms, on a eu leurs noms sur les murs des grandes villes françaises. Et donc, on a connu leur identité. Et puis, bien maintenant, je pense qu'il faudrait s'intéresser à d'autres victimes, des victimes silencieuses, invisibles, que sont les enfants. Qu'est-ce qui se passe quand papa a tué maman? Comment on vit? Comment on espère? Et surtout,
Comment on continue à vivre.
On va se reconstruire.
Tout simplement, oui. C'est sa mère et c'est son père. Donc
Exactement.
On imagine évidemment le drame épouvantable. D'ailleurs, si on parle de mère, la maman du meurtrier pense évidemment que c'est un accident.
Bien entendu, hein. les familles...
L'un des points... excusez-moi, je vous ai interrompu.
Non, les familles des meurtriers sont souvent dans le déni. Donc la famille paternelle pense effectivement qu'elle l'a bien cherché, que Clotilde devait peut-être aller voir ailleurs et que de toute façon, tout ça est un accident. Les familles vont se déchirer et les enfants, généralement, se retrouvent au milieu de tout ça.
Avec une question terrible à laquelle je n'avais pas pensé, c'est il faut aller voir le père en prison.
Bien entendu, non, il ne faut pas y aller, mais il y a cette possibilité ou cette obligation.
Il a besoin de toi, la grand-mère dit, Manon, elle s'appelle la plus petite, mais ton père a besoin de terrible, j'avais pas pensé, mais oui.
Oui, surtout qu'en France, il y a quelque chose qui s'appelle la coparentalité, c'est-à-dire que même quand vous avez tué votre femme, au bout de 6 mois, et à l'époque où je parle de mon sujet, c'est-à-dire 1999, c'était tout de suite, vous gardez l'autorité parentale. C'est-à-dire que du fond de votre prison, vous pouvez influer sur les vacances, les rendez-vous médicaux, le changement d'école et l'aide psychologique. Et là, ça, c'est aussi très important, puisque c'est un drame où la psychologie a évidemment toute sa place.
Encore un médecin, elle dit, la petite Manon, la pauvre. Et alors, on lui dit, non, c'est pour soulager tes cauchemars. Mais bon, elle dit, encore des médecins. autre question aussi, c'est, bon, d'abord, le déni, mais le fait que chaque enfant réagit à sa manière, la petite, elle dit rien.
Oui, parce qu'elle est victime directe. Elle était là quand le père Bruno a commencé à attaquer sa femme Clotilde. Donc, elle était réfugiée à l'étage. Elle a tout vu. Elle ne dit rien. Elle a été blessée dans cette scène de crime. Et elle va manifester son malaise par des conduites différentes et extrêmement, extrêmement nocives pour elle. Donc, il va falloir chercher un psy. Mais c'est ce que je montre dans le roman. Ces familles-là ne sont absolument pas suivies d'un point de vue psychologique et l'État ne s'y intéresse pas. Donc, si vous habitez loin et qu'il n'y a pas près de chez vous un psy formé au psychotraumatisme, eh bien, c'est très difficile d'en trouver un dans des contextes de déserts médicaux. Et puis, tout cela coûte de l'argent.
Il y a quand même un éducateur qui vient, il y a un minimum de choses. Et une méthode, bon, on ne va pas rester là-dessus, qui s'appelle l'EDMR, je ne savais pas que c'était là aussi, j'apprends plein de choses.
Qui est très utilisée en Israël, qui est vraiment une technique qui vient des États-Unis. Une madame Shapiro, qui n'était pas du tout médecin, et qui a découvert un jour où elle ne se sentait pas très bien, qu'en bougeant ses yeux de gauche à droite et de droite à gauche rapidement, elle se sentait mieux. Et cette méthode, qui existe depuis les années 80, fin 80, est extraordinairement utilisée en Israël pour les victimes d'attentats, pour les soldats, les soldates, parce que cela permet d'une certaine manière d'effacer, avec des guillemets, le traumatisme, les images négatives et les remplacer par des images positives.
Puisqu'on parle d'Israël, la grande, à un moment, elle décide de se tatouer.
Oui.
Je dis puisqu'on parle d'Israël, parce que puisqu'on parle du peuple juif, et on lui dit, mais tu peux pas faire ça. Elle dit, si, c'est mon corps, d'ailleurs, c'est ma mère qui me l'a donné, mon corps. Et donc, elle met une date, elle met la date. Mais ça m'a rappelé, il y a effectivement plusieurs familles de suppliciés qui veulent vivre le même supplice, soit donc, en l'occurrence, par un tatouage, mais il y a aussi des phénomènes d'incinération. Si lui, il est parti en fumée, moi, je me parais. Et c'est pas comme ça qu'on reconstruit. Normalement, on reconstruit justement en disant plus, ça n'arrivera plus.
C'est très difficile à comprendre pour nous qui n'avons pas été touchés par ces sortes de drames, mais c'est vraiment la volonté d'inscrire sur sa peau le trauma, de le garder à l'intérieur de son corps et d'une certaine manière de le revendiquer et peut-être même d'en faire une fierté. Le beau-père de Manon et de Roxane est totalement opposé puisqu'il a vu ce numéro.
Il est suffisant de rescapé.
Voilà.
Il va faire une chose pareille.
Exactement. Et il se dit, mais c'est une catastrophe. Et pourtant, ça arrive. Je trouvais qu'une adolescente qui est dans la rébellion, dans la colère, dans la rage même, eh bien, elle peut avoir des réactions extrêmes.
L'adolescente qui tape des voitures et tout. Bon, bref, elle est vraiment, elle essaye de s'en sortir comme elle peut. On sent la patte du journaliste parce que je vous ai reçu pour plusieurs livres, c'est toujours un plaisir bien sûr, mais vraiment il y a tous les sujets, le camp des mille, on a parlé de vraiment.
Oui, les enfants de la Shoah, trois livres, une trilogie. Oui, moi le fil rouge peut-être de mon travail ou de mon œuvre, c'est vraiment les victimes les plus jeunes, la vie, les enfants à qui la vie ne fait pas de cadeaux, et puis cette espèce d'énergie, cette force qu'ils ont entre eux, cette reconstruction, cette résilience. Et là, j'ai rencontré 20 familles et donc des enfants qui avaient de 8 à 30 ans.
Alors, j'allais vous dire ça. Et là, quelque part, on sent un peu le travail de journaliste. Ça ressemble un peu à une enquête. Il y a une enquête.
Il y a toujours une enquête, en fait. Il y a une enquête parce que sur un sujet comme ça, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Je ne suis pas dans la tête d'une petite fille de 8 ans qui a vu sa mère brûler sous ses yeux. Je veux absolument faire justice à ces victimes et donc recueillir leurs paroles. C'est vraiment la base, c'est le départ. Cela dit, ce n'est pas un livre de témoignages, c'est vraiment un roman, puisque la tante, Laurie, va prendre ses deux petites traumatisées sous son aile et va essayer de vivre ailleurs, à l'autre bout de la France, et de se reconstruire. Et donc, ce n'est pas facile d'être une maman de substitution et de devenir maman comme ça, en un claquement de doigts. Et alors, quand j'ai rencontré ces enfants, d'abord, j'étais très impressionnée. J'avoue que j'ai interviewé parfois des personnalités, mais je n'ai jamais eu aussi peur que quand j'ai interviewé des enfants de 8 ans ou de 10 ans, parce que j'avais tellement peur de leur faire revivre leur chagrin, de poser une question qui leur rappelle des choses. Voilà. Et certaines, surtout des filles, étaient extrêmement elle racontait très très vite et très facilement ce qui s'était passé. Et une petite m'a dit, ben voilà, papa, il a suicidé maman. Et donc cette phrase, ben, ça a été le point de départ de tout. Je me suis dit, mais on ne leur donne pas de voix. Ils n'ont pas de voix, on ne les connaît pas, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de nom. Ils souffrent doublement. Ils sont peut-être attachés à leur père, peut-être pas. Et il est temps qu'ils puissent parler, qu'ils puissent prendre la parole.
Le pire, c'est témoin quand même. Hein. C'est la petite Manon. D'ailleurs, elle est blessée elle-même.
Oui.
Le pire, c'est quand même ses témoins.
Bien sûr, parce que...
Et d'ailleurs, oui, excusez-moi.
Non, non, bien sûr, être témoin, être blessé soi-même, avoir envie de retrouver son père, détester son père, évidemment, pour ce qu'il a fait, mais l'aimer parce que c'est son papa qui l'a élevé et qui était très affectueux avec elle. Donc, est-ce qu'il faut se rendre effectivement en prison ou pas? Est-ce qu'il faut conserver des liens avec,
les photos.
Avec son père, les photos, comment on fête les anniversaires, Noël? Et puis, il y a la question aussi de la sortie de prison, parce qu'on n'est pas prisonnier à vie. Et dans les féminicides, maintenant, on est condamné à de lourdes peines, mais pendant longtemps, on ne l'a pas été. Donc, il y a la question de la sortie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retrouve son père? La question du pardon, est-ce qu'on va lui pardonner? Tout ça, c'est extrêmement romanesque, parce que chacun, évidemment, se décide en fonction de sa psychologie et de là où il en est. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de raconter comment... Dans une famille sans violence, sans coups, sans cris, on pouvait en arriver là, en fait. Et donc, Laurie, la tante, va mener l'enquête pour essayer de comprendre comment un couple amoureux, eh bien, tout d'un coup, quelque chose d'épouvantable comme ça se passe.
Il faut le vivre en plus avec les disputes, parce que le couple aussi, lui, connaît un moment, un tournant important. On ne va pas donner les détails du livre, mais et comment on fait aussi quand on se dispute devant les enfants? On est terrorisé. Ils se font la gueule, on ne donne pas les détails.
C'est la question du silence aussi, parce qu'il y a une espèce de huis clos familial et il y a le silence à l'extérieur parce que personne ne parle.
Parce qu'il ne faut pas le savoir. Oui, les enseignants ne disent rien. Il faut surtout que ça ne se sache pas.
Et donc voilà, et puis la mère qui donc, connaît des difficultés dans son couple ne se plaint pas parce que... Elle ne peut pas dire, il n'y a pas eu de coup, donc on ne peut pas aller au commissariat. Donc il n'y a pas de traces de violence. Mais quand il n'y a pas de violence physique, parfois il y a de la violence psychologique. Il y a des espèces de signaux faibles comme ça que l'on sait maintenant détecter. Et donc c'est aussi un travail qui permet de comprendre comment on en arrive à quelque chose d'aussi épouvantable qu'un meurtre.
Ouais. Il usait tous les ressorts possibles pour asseoir sa domination, l'assassin je veux dire. Et vous posez, l'un des personnages pose la question, est-ce qu'on guérit ou pas? Est-ce que...
Parce d'un
que
tel traumatisme
on vivra toujours avec. Mais est-ce que c'est aussi une forme de guérison que de savoir vivre avec? Vous savez, un jour, on parlait de la Shoah à ce micro, on m'a dit, on te coupe un bras. Bien sûr qu'il te manque un bras. Mais tu peux vivre aussi sans bras. Il faut juste savoir qu'on t'a coupé un bras. Est-ce qu'on peut guérir? Est-ce que vivre avec... Ça veut dire aussi guérir. Enfin, c'est ou l'un ou l'autre? C'est ou guérir ou vivre avec?
Alors, je crois que ce qui est très important, déjà, c'est le procès. Quand il y a un procès, parce que souvent, les pères assassins se suicident à la fin. Donc, il n'y a pas de procès. Donc, il n'y a pas de réponse juridique à ce qui s'est passé. Et donc, là, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne comprend pas. On reste avec ces questions. L'État n'aide pas, on l'a dit. Et donc, finalement, ces enfants-là se retrouvent en famille dans le meilleur des cas, puisqu'ils peuvent se retrouver en maison d'accueil ou en foyer. Évidemment, si c'est une fratrie de 3, 4 ou 5, ils peuvent être séparés à tous les coins de la France ou d'un autre pays. Et donc, je crois que la question du procès est capitale pour dire, oui, il y a eu faute, il y a eu crime et il va y avoir punition. Quand il n'y a pas ça, c'est encore plus dur. Cela dit, il peut y avoir reconstruction quand il y a aide psychologique. Un attentat à Paris ou à Tel Aviv, il y a une cellule psychologique qui se met en place. Un accident, il y a une aide psychologique dans les écoles ou ailleurs. Là, il n'y a rien. Donc, en fonction de vos moyens, en fonction de vos disponibilités, etc., vous trouvez de l'aide ou pas. Quand on parle vite de ce qui s'est passé, un enfant a beaucoup plus de chances d'arriver à s'en sortir que quand tout ça est enkysté, quand tout ça est à l'intérieur de soi et ressort avec une violence énorme des années après. Il faut les rassurer, ces enfants. Ils ont peur de posséder eux aussi cette violence en eux. puisqu'ils sont 50% leur père, 50% leur mère. Donc, ils ont le sentiment qu'eux aussi peuvent être des assassins en puissance. Donc, il faut les rassurer. Il faut qu'ils arrivent à trouver des tuteurs de résilience, comme disait Boris Cyrulnik, dans leur cercle. Et puis, il faut leur donner l'envie d'aller de l'avant. Quand vous êtes ado et que vous découvrez l'amour, ben, comment avoir confiance dans le sexe opposé ? Vous êtes une jeune fille et vous vous dites, est-ce que je vais tomber amoureuse ? Est-ce que je vais me marier, avoir des enfants avec un homme ? Et est-ce que je serai en danger ? Voilà, exactement.
Ariane Bois, merci d'être venue nous voir dans les studios de Radio Shalom.
Merci à vous, vous êtes très fidèle. Je suis heureuse que ce roman existe et de son message. Le féminicide, ça peut arriver dans toutes les communautés, dans tous les milieux. Et il faut que les femmes parlent et que l'on pense aux plus oubliés, c'est-à-dire les petits.
Après elle, aux éditions Récamier. Et puis voilà, il y a des fêtes qui vont arriver. Par exemple, on peut se dire, tiens, je vais lire un livre parce qu'on aura plus de temps libre dans la souga, par exemple, ou pendant les fêtes, tout simplement. On ne va pas travailler. Après elle, d'Ariane Bois, aux éditions Récamier. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
Merci à vous.